Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail.
Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, nous recevons Anne-Laure Lamontagne, psychoéducatrice pour un service privé. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous deux de m'avoir invitée.
Et je suis également accompagnée de ma collègue Vicky. Bonjour Vicky.
Bonjour. Donc, on pourrait commencer avec d'emblée avec une première question. Donc, on aimerait savoir en quoi consiste ton métier par rapport en fait à la vision que les gens ont quand tu dis que tu es psychoéducatrice versus la réalité de ton métier, ce que tu fais vraiment.
Donc, c'est clair que j'ai un métier, en fait, qui est moins connu par monsieur et madame tout le monde. Donc, on pourrait penser là, que les psychoéducateurs, le gros de notre travail, ça se passe dans les écoles primaires, auprès des enfants. Mais par contre, la psychoéducation, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, comme psychoéducatrice, je suis appelée à travailler avec une clientèle vraiment très variée. Mon but, en fait, c'est d'aider les gens à s'adapter lorsqu'ils font face à des difficultés. Donc, on s'entend que des difficultés, on peut en vivre, oui, à l'enfance, mais on peut en vivre aussi à l'adolescence, à l'âge adulte. Bref, le psychoéducateur est vraiment appelé à travailler avec un grand nombre là, de personnes. Moi, pour ma part, je travaille en jeunesse, donc autant au niveau des enfants que des adolescents et leurs familles. Je vais travailler comme psychoéducatrice sur le terrain. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle dans notre beau petit jargon psychoéducatif, le vivre ensemble. Donc, on accompagne la personne directement dans les situations de son quotidien qui sont plus difficiles ou qui peuvent représenter un défi. Et on les accompagne, en fait, à identifier leurs forces, leurs défis pour être en mesure de trouver, en fait, les bonnes solutions. Donc, mon travail, c'est autant, oui, au niveau de l'accompagnement qu'au niveau en arrière-plan d'évaluation pour vraiment aller comprendre les besoins qui se cachent derrière les comportements. Donc, autant d'être capable de me faire une idée de pourquoi est-ce que la personne vit ce qu'elle est en train de vivre, mais aussi d'être capable de trouver avec elle les bonnes stratégies pour qu'elle puisse s'adapter. En fait, en gros, mon objectif, c'est toujours que la personne puisse ensuite réussir de façon autonome, fait que retrouver son pouvoir d'agir pour être capable de s'adapter et de faire face à d'autres défis qui pourraient se poser là, sur son chemin. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que je fais au quotidien.
Tu l'as un petit peu effleuré là, dans ta question, mais on aimerait savoir au niveau des clients, de la clientèle, tu as parlé de la clientèle jeunesse. Donc, est-ce que c'est enfance et adolescence? C'est dans un deuxième temps. C'est quoi leur particularité, leur problématique?
Donc, oui, effectivement, j'ai parlé d'enfance, de jeunesse. Je vais travailler, dans mon cas, autant en petite enfance auprès là, des petits. Là, à ce moment-là, je vais être plus en coaching parental, mais je travaille aussi avec des enfants de 5 à 12 ans et les ados jusqu'à 17-18 ans. Les particularités, j'aimerais ça vous dire, en fait, que c'est très varié. Je considère que ma clientèle est assez unique. Je vais autant avoir des jeunes que je vais rencontrer pour de l'anxiété, des jeunes que je vais rencontrer, pardonnez-moi, pour des problèmes de consommation, des difficultés d'adaptation, rupture amoureuse. Fait que, bref, ça peut être des petits besoins qui, de nos yeux d'adultes, ont l'air un peu plus anodins, comme parfois je peux les rencontrer à des moments de leur vie où ça va vraiment pas très bien, soit en grosses difficultés, comportement d'automutilation, problématiques soudaires. Fait que, bref, en soi, je vous dirais qu'il n'y a pas une journée dans ma vie qui est pareille d'une fois à l'autre.
Ça m'amène une question, en fait. Tu sais, tu as parlé de rupture amoureuse, des choses comme ça, des choses que les gens vivent psychologiquement, là. Est-ce que ça arrive que des fois, les gens vont comparer ton métier avec les psychologues, puis c'est quoi qui se démarque, en fait, entre les deux?
Ah, ma belle question classique. Donc, oui, c'est très mélangeant hein, quand on rentre dans les domaines de relations d'aide, de réussir à définir qu'est-ce qui est le propre à la psychoéducation, qu'est-ce qui est le propre à la psychologie, au travail social même. Donc, vous avez raison que ça peut vraiment devenir très mélangeant. Je vous dirais qu'avec la psychoéducation, on va vraiment s'intéresser à la personne dans l'ici et maintenant, fait que dans les difficultés qu'elle vit dans son quotidien actuellement. En psychologie, on irait probablement faire un travail également sur l'histoire de vie de la personne, essayer de voir au niveau du développement, là, comment est-ce que tout ça s'est déroulé, où est-ce qu'il y a pu avoir des éléments, en fait, qui ont peut-être bloquer ou qui explique la personne qu'elle est aujourd'hui. Moi, c'est certain que je regarde un petit peu cette histoire de vie-là. Par contre, le propos de mon travail ne se trouve pas là, il se trouve vraiment dans l'actuel. Donc, c'est sûr qu'on est des gens qui vont être plus dans l'action, dans les stratégies concrètes. Donc, c'est un petit peu ça, je vous dirais, là, qui définit la différence de mon rôle.
C'est vraiment intéressant, c'est vrai la différence, parce que ça peut être dur à imaginer des fois cette différence-là. Puis, à quoi ça ressemble une journée type, mettons, quand tu rentres le matin, à quoi ça ressemble une journée type? Puis c'est quoi les défis quotidiens que tu peux rencontrer?
C'est une bonne question. En fait, comme je vous disais, mes journées se ressemblent rarement, mais il y a quand même un tronc commun là, à tout ça. La plupart de mon temps, en fait, se passe vraiment directement dans mes rencontres auprès de la clientèle. Donc, soit je vais rencontrer les gens à mon bureau ou à l'école, dans leur milieu de vie, à la maison aussi. Bref, dépendamment de ce qu'on a ciblé là, comme étant le meilleur besoin qui était ressenti par la personne. En dehors de ces rencontres-là, c'est sûr que vient mille et une autres tâches connexes. Donc, c'est sûr que, bon, tout ce qui va être rédaction de rapports, tenue de dossier, planification de mes rencontres, création d'outils, il y a beaucoup de créativité, en fait, là, dans mon travail. Donc, je crée les outils pour les jeunes, pour les familles, communication avec les différents partenaires. Donc, c'est sûr que quand je suis en relation avec l'école pour soutenir un jeune, bon, ben, dans ma journée, je dois quand même pouvoir communiquer avec les enseignants, des rencontres d'équipe aussi qui se déroulent avec les autres professionnels de la clinique. Et bien sûr, retour de courriel et téléphone pour la clientèle, les nouvelles demandes, d'être capable de traiter un petit peu tout ça. On parlait tantôt de défis. En fait, je vous dirais que le principal défi que moi je vis au quotidien, c'est vraiment un défi lié à l'organisation des tâches. En soi, c'est sûr que je vous cacherai pas que ce que je préfère de mon travail, c'est beaucoup le contact direct auprès des clients. Donc, tout ce qui va être la partie plus tenue de dossier, elle est très importante, quoique moins palpitante dans mon cas, mais d'être capable de jumeler tout ça au travers des urgences, d'être capable de faire preuve de flexibilité, je vous dirais que souvent, c'est là que va venir se jouer un petit peu plus les défis. Donc, être capable de tout faire un petit peu là, au courant de ma journée, tout en respectant, en fait, là, les besoins les plus urgents. C'est là des fois où ça me donne des petits casse-têtes.
Donc, on peut constater que les tâches sont assez variées dans une semaine parce qu'il peut y avoir des besoins ponctuels, des urgences, puis il y a des choses peut-être un petit peu plus routinières là, au niveau de la tenue de dossier, des courriels, etc.
Tout à fait.
Comment ça s'insère dans une semaine de travail? C'est quoi ton horaire de travail? Tu fais combien d'heures? Est-ce que tu es amené à faire du travail supplémentaire, des heures supplémentaires?
Mon horaire de travail, c'est environ 40 heures par semaine, je dirais. Fait qu'un certain pourcentage de ce temps-là est passé directement là, dans mes rencontres avec les gens. Moi, je fais 5 jours par semaine. C'est sûr que, bon, le contexte aussi de la pratique autonome en milieu privé fait que j'ai le droit de déterminer un petit peu mon horaire. Moi, j'ai choisi d'offrir 2 soirs pour question d'accessibilité de mes services à la clientèle. Par contre, c'est pas nécessairement obligatoire. J'ai plusieurs collègues qui font du lundi au vendredi 2 jours puis qui fonctionnent très bien là avec cet horaire-là. Moi, je me suis donné cette latitude-là aussi là, pour être capable de jumeler un petit peu des moments où je sais que ça peut être plus pratique là, pour les parents de faire des interventions. Par contre, c'est pas nécessairement obligatoire. On parlait, bon, les heures supplémentaires. C'est sûr que je vous parlais tantôt. Bon, des fois, il arrive des petites urgences. C'est sûr qu'en cas d'urgence d'imprévu, ça se pourrait que j'aille à déborder un petit peu de cet horaire-là. Mais je dirais que ça c'est pas la plupart du temps là, que j'ai à faire des heures en extra là, de mes heures de bureau.
Puis, dans le cadre de ton travail, avec qui tu es amenée à collaborer? On a parlé des écoles, des parents, j'imagine d'autres professionnels aussi, justement, de la clinique. Mais c'est ça, plus spécifiquement, là, avec qui tu es amenée à collaborer?
Oui, donc c'est sûr que sur une base régulière, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les parents, les enseignants. Si je parle de mes plus petits aussi, les éducateurs à l'enfance, direction d'école même dans certains dossiers. Une foule de professionnels aussi qui peuvent intervenir auprès là, de mes clients. Fait qu'on peut parler autant de psychologues, d'éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, conseillères en orientation, pardon, orthophonistes, orthopédagogues, d'autres psychoéducateurs. Bref, en fait, n'importe qui est appelé à intervenir auprès de mes jeunes. Donc, il y a une bonne partie de mon travail, oui, qui se passe à travailler en équipe avec soit les gens directement au sein de ma clinique que les partenaires externes de d'autres milieux de vie. Donc, quand même plusieurs personnes avec qui je suis appelée à collaborer.
Donc, j'en comprends que tu sais, t'as des dossiers individuels, mais qu'il y a beaucoup d'acteurs là dans ces dossiers-là. Est-ce que tu considères que ton travail est majoritairement du travail d'équipe ou du travail individuel?
Je dirais qu'il y a un pourcentage des deux. En fait, je passe beaucoup de temps en équipe, mais c'est sûr que quand je me retrouve avec le jeune directement dans mon bureau, je suis plus en individuel. Fait que pour moi, c'est un petit équilibre en fait entre les deux, des rencontres en un pour un ou directement auprès de mon client, puis du travail en extra en fait qui se passe beaucoup en équipe. Donc, je trouve qu'il y a une belle harmonie entre les deux.
Ton parcours, ben dans un autre ordre d'idée, là, ton parcours scolaire et professionnel, ça ressemble à quoi? Quelle étude as-tu fait pour en devenir psychoéducatrice? Puis au niveau de tes expériences aussi professionnelles, là, ça ressemble à quoi?
Si on parle de mon cheminement scolaire, en fait, c'est sûr que bon, tout ça a commencé au Cégep par un programme préuniversitaire. Ensuite, je me suis dirigée vers l'université pour devenir psychoéducateur. C'est 3 ans de baccalauréat et 2 ans de maîtrise pour accéder à l'ordre. C'est sûr que moi, j'ai fait un petit détour dans ces années-là. En fait, j'ai commencé par un an de psychologie lors de mon entrée universitaire. Je me suis réorientée vers la psychoéducation parce qu'il y avait le côté d'approche terrain, de vivre ensemble qui m'interpellait vraiment beaucoup chez les psychoéducateurs. Donc, ensuite, je suis tombée en amour et j'ai continué dans cette profession-là. À ma sortie de l'école, j'ai eu la chance d'être engagée comme psychoéducatrice en milieu scolaire. Là-bas, j'ai fait un an. Ensuite, j'ai fait le saut au privé et depuis 2019, je travaille au privé. Depuis cette année, bon, j'ai intégré une clinique multidisciplinaire, comme je parlais tout à l'heure, donc au CAP Service psychologique à Québec. C'est vraiment un gros coup de foudre pour moi, côté latitude, côté créativité que je peux me permettre. Donc, ça ressemble à peu près à ça, je vous dirais, mon parcours jusqu'à maintenant.
Puis, tu as effleuré un petit peu l'ordre professionnel là, que tu es entré à la fin de tes études. En fait, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un examen d'entrée pour entrer dans cet ordre-là? Effectivement, il y a une cotisation annuelle, mais comment ça fonctionne pour y entrer?
C'est une bonne question. C'est vrai que pour certains autres professionnels, on doit passer un examen pour y accéder. En fait, en psychoéducation, je dois remplir les exigences qui sont le stage final de maîtrise, un projet intégrateur aussi à la fin des études, ainsi que bon, la réussite de l'ensemble des cours là, de mon parcours universitaire. Ensuite, on soumet la demande à l'ordre qui étudie notre dossier, mais je n'ai pas eu de démarche supplémentaire d'examen ou d'heures à faire là, pour accéder à l'ordre outre lorsque j'ai fait au cours de mes études.
Au niveau des milieux de travail possibles, dans le fond, on a nommé, là, t'as pu nommer les milieux scolaires, également la pratique privée. Est-ce qu'il y a d'autres milieux de travail connus ou moins connus, là, que les psychoéducateurs sont appelés à travailler?
Donc, comme je disais tantôt, étonnamment, on peut se trouver un petit peu partout. Donc, même si on est très associé à certains milieux, on pourrait trouver des psychoéducateurs. C'est sûr, on parlait tantôt de milieu scolaire, mais dans n'importe quel milieu d'éducation. Fait qu'autant, si on commençait ça en CPE versus en communauté universitaire, il va y avoir des psychoéducateurs qui peuvent œuvrer là, dans ces différents milieux-là, dans les centres de santé et de services sociaux, que ce soit autant en CLSC, centre jeunesse, CRDI, hôpitaux, CHSLD et j'en passe. En organisme communautaire aussi, il y a beaucoup de psychoéducateurs qui œuvrent dans les organismes. On peut même trouver des psychoéducateurs qui travaillent dans les prisons, donc dans les centres de détention. Puis aussi des emplois au gouvernement. Ça, c'est ceux que je connais pour les nommer. Mais bref, en soi, je sais que la psychoéducation, c'est une profession qui est beaucoup en émergence dans les dernières années. Donc, on fait notre petit bout de chemin dans des nouveaux milieux. Donc, c'est super intéressant de voir ça aller, mais il y a un univers de possibilités quand même là, vraiment important de ce côté-là.
C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que parmi cet univers de possibilités-là, il y a aussi toute la diversité de la clientèle. Tu sais, il n'y a comme pas de limite par rapport à la clientèle que vous pouvez rencontrer. Là. Fait que c'est le fun de voir que c'est aussi large. Si on revient un peu à la base, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là?
On dirait que ça a toujours été un choix pour moi qui était évident et pas en même temps, dans le sens où je savais que j'ai toujours voulu travailler directement auprès des gens. Ça, c'était l'élément que je connaissais, mais après ça, où quand, comment était une autre chose. Mais c'est sûr que le désir d'aider les autres, d'être capable de faire la différence, d'accompagner les gens plus vulnérables, ça a toujours été une flamme que j'avais en moi. De découvrir la psychoéducation, ça s'est fait de fil en aiguille, étant donné que c'est pas le métier qui était le plus répandu si on retourne il y a quelques années. Mon père est éducateur spécialisé, donc c'est sûr que j'ai quand même toujours un petit peu baigné dans ce domaine-là. Je pouvais voir lui quand il me parlait de ses journées de travail, l'espèce de petite flamme justement que je voyais dans ses yeux quand il me parlait de ses clients. C'est quelque chose qui m'animait beaucoup. C'est sûr qu'après ça, bon, de réussir à trouver un métier qui m'amenait autant à aller chercher ce côté-là de soutien des autres, le côté créatif, analytique qui est vraiment très important et ancré chez moi. C'est sûr que j'adore vraiment beaucoup le travail d'équipe. Donc, pour moi, les tâches plus de bureau, ça me ressemblait moins. Mais aussi, ce qui fait que finalement, ça a été la psychoéducation, mon coup de cœur parmi les autres métiers. C'est Vicky, tu le disais bien tantôt, il y a une variété quand même dans ce qu'on fait. Fait que cette espèce de liberté-là, de latitude, de me dire que si jamais je fais le tour. J'ai l'impression qu'au niveau de l'intervention jeunesse, ça ne me rejoint plus autant qu'avant, mais je sais que je vais être capable, sans nécessairement retourner là, aux études, de faire un changement, de me reformer pour une nouvelle clientèle, puis pouvoir continuer mon chemin sans faire un virage à 180. Bien, c'est sûr que ce côté-là, pour une fille qui aimait beaucoup les challenges et les défis, c'était très attirant là.
Puis, je ne sais pas si tu es en mesure actuellement là, dans ton travail de cibler ce que tu aimes le plus.
Je pense que vous pouvez vous en douter, c'est beaucoup le contact avec les gens. Il y a quelque chose dans le lien privilégié que tu as avec ta clientèle, la confiance que tu développes avec ces jeunes-là, surtout avec ma clientèle adolescente qui est vraiment mon dada. Il y a quelque chose de tellement beau de sentir qu'on se fait confiance puis qu'on va travailler puis parler de choses qui sont tellement sensibles que moi, ça me nourrit vraiment beaucoup. J'aime, c'est sûr, sentir le fait que je suis capable de faire une différence puis de voir les gens évoluer aussi au travers de mes suivis, de voir où est-ce qu'on était au départ puis où est-ce qu'ils ont réussi à s'amener puis d'être la personne qui peut être spectatrice en fait de ce beau changement-là puis qui leur souligne puis qui renforce force aussi. Les pas qu'ils ont fait, pour moi, ça, c'est le plus beau côté de mon métier.
Ça m'amène à une question, justement, quand tu as parlé des suivis. Je ne sais pas si tu es, peut-être que tu vas être capable de faire une moyenne, là, j'imagine que c'est différent pour chaque personne, mais en termes de temps, en général, quand tu suis un client, ça dure combien de temps? Combien de rendez-vous? Combien de temps il va être en suivi? Il reste dans ton décor combien de temps?
Si seulement ça pouvait être une belle science exacte, j'aimerais ça pouvoir donner une donnée franche. Je dirais que ça dépend beaucoup de la raison qui fait que la personne vient consulter le psychoéducateur. J'ai des clients, c'est certain que ça se passe plus sur le court moyen terme. Donc, disons, en une dizaine de rencontres, on réussit à faire le tour là, des besoins. Mais j'ai des clients que je suis depuis, ça fait 3 ans que j'exerce au privé. Donc, j'ai des clients que ça fait 3 ans que on se suit, peut-être pas nécessairement à chaque semaine, mais qui font de qui je fais partie de leur vie. Donc, je vous dirais que ça dépend vraiment beaucoup du besoin. La majorité, c'est certain que je suis le plus sur le court moyen terme. Parfois, c'est ça, dans certains dossiers, on reste le plus à long terme où il y a des épisodes de service qui se font. Ça veut dire que, dans le fond, il y a quelqu'un qu'on se voit pendant un bout de temps. Il repart faire ses choses de son côté. Il revient me voir pour quelques rencontres. On continue un bout de chemin ensemble. Fait que, bref, là-dessus, c'est quand même assez varié. Ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très touchant, veux pas, au fait de participer sur le long terme avec nos clients, hein, on s'attache quand même, veut pas, même si on ne doit pas. Mais c'est sûr que c'est ça. J'aime beaucoup là, ce côté-là quand que le suivi perdure là, à long terme. Mais sinon, c'est aussi pertinent là, quand on est là sur plus le court terme aussi. On suit en fait le rythme des gens.
Merci. C'était quand même une petite question piège, mais. C'est très bien expliqué. Puis, on a parlé de ce que tu appréciais le plus. Puis, à l'inverse, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant, que tu as découvert en arrivant sur le terrain, puis tu as fait « Oh là là, j'étais pas prête à ça ». Tu sais, y a-t-il des choses qui sont arrivées comme ça?
C'est sûr que, bon, il y avait le côté aussi où la psychoéducation, on sait c'est quoi, puis on sait pas non plus c'est quoi. Hein? Donc, c'est sûr qu'au niveau de qu'est-ce que faisait un psychoéducateur à tous les jours, j'avais eu une expérience, en fait, en milieu scolaire, dans mes stages, mais quand on sortait des milieux scolaires, oh là là, j'ai trouvé que c'était un petit peu d'adaptation. Fait que je dirais qu'en fait, la surprise peut-être que j'ai eue, même si on le sait, c'est un peu la charge que ça amène à l'extérieur de nos rencontres. Fait que le côté un peu paperasse, tenue de dossier, c'est le côté un petit peu moins glamour, veut pas, de la profession qui est tellement essentielle pour faire notre travail, mais en même temps, qui m'a demandé beaucoup d'organisation à la base parce que c'est pas quelque chose auquel je m'étais nécessairement préparée. On dirait que dans mon imaginaire, c'était là, mais je savais pas à quel point est-ce que ça faisait partie de mon quotidien. Une fois que je me suis trouvée des bonnes bases, je me suis fait coacher aussi par des collègues. Je dirais que ça s'est mieux passé, là, côté intégration. Mais c'est sûr que de connaître un petit peu la réalité du terrain, puis qu'on m'explique aussi plus en détail les autres tâches, en fait, que le psychoéducateur est appelé à faire versus les rencontres avec les clients, j'aurais aimé là, être un petit peu plus préparée là, de ce côté-là.
Puis, selon toi, là, au niveau des qualités, ça serait lesquelles qui sont les plus importantes, qui sont primordiales pour exercer ta profession?
C'est sûr que je pense que tout ça part de beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de respect, d'empathie aussi. Hein? Donc, aimer être en contact avec les autres, pour moi, je pense que c'est la base qui fait qu'on choisit ce métier-là. Sinon, c'est sûr que bon, tout ce qui va être sens de l'observation, esprit d'analyse, c'est quand même important de les avoir. Mais le côté imagination et création aussi, donc quelqu'un qui est imaginatif, créatif, va être trouver son compte en masse dans ce qu'on peut faire. Un peu d'autonomie aussi, veut pas, quand on se retrouve directement avec nos clients, c'est beaucoup nous qui devons les coacher, les amener, prendre les devants des fois pour les motiver. Donc, c'est sûr que ça prend quand même un peu d'autonomie dans tout ça là, pour être capable de bien réussir.
Puis, tu as ouvert la porte, en fait, à la notion de créativité. Je me demandais quelle place ça prend, parce que tantôt, tu parlais de créer des outils, des stratégies, tout ça. Quelle place ça prend dans ton travail, justement, la notion de créativité?
Autant, ça prend beaucoup de place. Autant avant mes rencontres, dans ma planification, essayer de voir comment est-ce que je pourrais aller créer le lien avec, disons, le client que je vais rencontrer, voir de quelle façon peut-être je pourrais lui amener à vouloir se mobiliser pour faire un changement, essayer de trouver des outils. En fait, oui, il existe beaucoup de choses, mais souvent quand la personne sent qu'on les a vraiment faites pour elle, on a vraiment personnalisé les choses pour elle, c'est quelque chose qui est très qui est très motivant puis qui leur fait du bien. Mais je dirais aussi, puis tu sais, oui, là, c'est de l'imagination, mais aussi des capacités adaptatives à même mes rencontres aussi, des fois quand ça fonctionne pas, quand j'ai un petit blocage de l'autre côté, je dois être capable de dénouer ou d'amener rapidement une autre idée ou une autre piste avec laquelle on pourrait peut-être travailler. Fait que c'est sûr que ça prend quand même un peu d'imagination pour être capable de, OK, bon, ben il veut pas entendre parler, disons, de sa consommation de cette façon-là. Bon, ben tant pis, on va essayer de glisser par une autre porte pour aller lui parler de quelque chose, pour lui faire peut-être réaliser, finalement, qu'est-ce que je viens de lui dire, tu sais. Fait qu'il faut être capable de rebondir quand même, puis d'improviser une fois de temps en temps, là, pour être capable de s'en sortir.
Mais c'est vraiment intéressant, ça l'illustre bien, parce que c'est vrai que ça peut toucher beaucoup de choses, la créativité, puis justement le côté un peu débrouillard finalement, là, tu sais, que ça prend pendant les rencontres, puis tout ça, là. Puis, tu dirais que ton métier, il est lié à quelle valeur importante pour toi?
Pour moi, c'est sûr que ça vient toucher beaucoup tout ce qui est entraide, respect, ouverture d'esprit. Donc, j'ai pas, tu sais, même si, par exemple, pour vous donner un exemple concret, tu sais, ça se peut que je reçoive devant moi des parents que je suis plus ou moins en accord avec les pratiques qui appliquent avec leurs enfants, mais je dois pas être fermée à ça ou les confronter. Faut que j'essaie de comprendre. Fait que c'est sûr que là-dessus, pour moi, je pense que c'est une des valeurs qui est la plus centrale dans mon travail. Si tu rentres dans mon bureau, peu importe ta culture, peu importe qui tu es, ton identité, peu importe tes choix dans la vie, tu pars avec le même pied d'égalité que n'importe quelle autre personne. Fait que c'est sûr que pour moi, je considère que c'est vraiment une des valeurs centrales, vouloir être capable d'aider, donc l'entraide, le respect, l'empowerment aussi, parce qu'en soi, empowerment, je veux redonner le pouvoir d'agir aux gens, que la personne puisse être autonome dans son quotidien. Fait qu'en fait, oui, je l'accompagne, je lui donne des trucs, mais mon but, c'est qu'elle soit capable de se débrouiller sans moi. Donc, je veux vraiment lui redonner le sentiment qu'elle est capable de faire face aux défis du quotidien. Fait que ça aussi, je dirais que c'est majeur comme valeur dans mon travail.
J'ai encore une question. Mais en fait, on dirait que ça m'amène plein de questions, mais je me demandais justement, tu sais, tu parlais de l'ouverture d'esprit, puis justement d'accueillir les parents, le client comme ils sont, puis tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé des fois d'avoir comme un conflit de valeurs ou quelque chose qui était difficile à gérer émotionnellement pour toi, mettons, que ça a fait « Oh mon Dieu, OK, ça passerait pas », mettons, ou y a-t-il des choses qui sont arrivées des fois qui ont été difficiles à gérer?
Oui, des fois, ça peut être très confrontant. Je veux pas qu'est-ce que les gens peuvent nous amener à même les rencontres. Je parlais un petit peu tantôt, les parents, puis les pratiques, là, donc comment est-ce qu'ils interviennent auprès de leurs enfants. C'est sûr que quand des fois, certains parents m'expliquent un peu d'entrée de jeu, les façons qu'ils gèrent les crises, le fait, par exemple, là, je me rappelle d'une situation, c'est que le parent embarrait là, son enfant dans sa chambre. Ça, j'avais trouvé ça très dur de garder mon petit visage impassible et faire comme « Ah, OK! » Donc, en dedans de moi, ça m'avait beaucoup travailler, là, je voulais essayer surtout de comprendre comment qu'on en était arrivé à se rendre jusque-là, mais sur le coup, quand ils ont fini par m'avouer un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les interventions avec leurs jeunes, j'avais trouvé ça dur à recevoir parce que pour moi, c'était une pratique que je ne recommande pas, disons-le ainsi. Donc, ça arrive des fois, veux pas, que des fois qu'on se fait confronter là, par rapport à certaines valeurs. Et là, faut essayer de mettre ça de côté, mais à l'interne, c'est pas toujours facile là, de mettre ça de côté là, pour se rappeler qu'on est là, en fait, pour que ça change en soi. Là.
Donc, il y a des qualités qui sont sous-jacentes à ça, qui sont probablement aidantes, que tu as nommées tantôt par rapport, ben notamment là, à l'ouverture d'esprit, hein, puis à l'empathie. Donc, tu sais, c'est de, oui, recevoir le fait que des parents ont des pratiques peut-être que qui sont pas cautionnables, mais ça permet là, quand même de pouvoir poursuivre dans l'accompagnement sans jugement, puis de faire une différence.
Oui, c'est ça exactement. D'être capable d'accueillir. Puis souvent, je le sais aussi que ils sont pas nécessairement fiers de s'être rendus jusqu'à utiliser des pratiques comme ça. Fait que souvent, oui, quand on parle d'ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire que j'accepte qu'est-ce qu'ils font, puis que je suis en accord, puis que je dis ben oui, monsieur, madame, il n'y a pas de problème. C'est plus que je vais comprendre qu'il y a une souffrance quand même qui se cache derrière qu'est-ce que la personne fait. Là, je parle de l'exemple avec les parents, mais c'est pareil pour nos ados qui consomment. C'est que même si on trouve qu'ils font pas des bons choix, faut aller au-delà de ça. En tant que psychoéducateur, veux, veux pas, ça fait partie de notre travail de justement aller voir la souffrance, aller voir le bobo qui se cache derrière les comportements que la personne, elle utilise. Que c'est, oui, ça peut être confrontant des fois, mais ça peut vraiment faire une différence.
On irait vraiment sous un autre ordre d'idée. Dans le fond, on aimerait savoir, là, est-ce qu'il y a des possibilités de promotion ou d'avancement dans ton secteur, soit en psychoéducation ou vraiment là, pour l'employeur pour lequel tu travailles actuellement?
Je dirais que, tu sais, si on parle un peu du secteur public, c'est sûr que oui, il y a des possibilités d'avancement dans le domaine, des psychoéducateurs qui peuvent finir par appliquer sur des postes de spécialistes en activité clinique ou devenir responsables de certaines unités. Là, je vous avoue que c'est un univers dans lequel j'ai pas beaucoup baigné, mais je sais que c'est possible quand même qu'il y ait d'avancement de carrière de ce côté-là. Du côté du privé, bon, ben c'est sûr que oui, il y a la portion avoir sa pratique autonome. Il y a la portion aussi de devenir propriétaire de sa propre clinique. Donc, le côté d'entrepreneuriat à ce moment-là qui peut être intéressant à développer. Je dirais que dans ce que je connais du domaine, c'est un peu les opportunités que je pourrais voir le rapidement par rapport à ça.
Le placement après les études, est-ce que tu considères qu'une personne qui sort de sa maîtrise, mettons, cette année-là, est-ce que tu considères que le placement est facile ou difficile? Puis, y a-t-il des choses qui pourraient le faciliter ou, au contraire, nuire à ce placement-là?
C'est une bonne question parce que reculons de quelques années, je pense que le placement était bon dans certaines villes, mais à Québec, c'était plus difficile, là. Donc, quand moi, je suis sortie de mes études, le portrait n'était pas le même. Aujourd'hui, je dirais que le placement est quand même très bon et très facile. Donc, c'est sûr que, bon, la pénurie de main-d'œuvre touche quand même, je veux pas, mon secteur d'emploi. Il y a aussi une grande émergence, en fait, de la psychoéducation qui se fait présentement dans la ville de Québec, mais j'imagine aussi là, dans d'autres régions. C'est une profession qui est jeune, donc on est encore beaucoup à se faire connaître. Je pense qu'on a fait bien nos preuves aussi là, dans les dernières années. Donc maintenant, on a des ouvertures de postes qui se font dans des milieux où on n'était même pas implanté à la base. Fait qu'il y a beaucoup de beaux qui se crée présentement. Je dirais que dans les choses qui peuvent aider ou nuire au placement, peut-être, c'est sûr que si on arrive avec déjà une idée en tête de clientèle très précise avec laquelle on veut travailler, d'un horaire très précis qu'on veut avoir. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la première entrée qu'on va prendre. C'est sûr que souvent, au départ, ça risque d'être des remplacements avant d'obtenir son poste, sa permanence. Fait que je pense que c'est important, oui, de savoir qu'on peut s'orienter vers le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Le taux de placement est assez bon pour ça. Donc, vouloir travailler avec une clientèle qui ressemble à celle qu'on veut, mais c'est sûr que si, par exemple, moi, je décidais que je voulais absolument travailler en dépistage de l'autisme pour les enfants 0-5 ans, là, c'est sûr que peut-être que je vais me trouver qu'il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes. Par contre, si je suis ouverte à la petite enfance en général, là, je devais trouver une ouverture quand même plus facilement. Fait que je pense que c'est d'être capable d'être ouvert d'esprit, mon mot de la journée finalement, pour être capable de rentrer, mais il n'y a pas de difficulté à se placer là actuellement.
On arrive déjà à la fin de notre discussion ensemble. Ça a été vite. En fait, on aimerait savoir là, est-ce que Je considère que les effets de la COVID vont avoir eu des effets sur ton métier, donc au niveau de la pratique professionnelle, mais aussi chez les clients. Probablement que tu as remarqué là, plusieurs contre-coups hein, de la pandémie sur la clientèle.
Oui, ça c'est vrai. C'est sûr qu'au niveau de l'impact sur ma profession, je pense quand même que ça va avoir aidé à ce qu'on se fasse un petit peu plus connaître. Ce qui est un revers, en fait, là, veux pas, de la pandémie. C'est sûr que si je parle de ma pratique à proprement parler, ce que je fais dans le quotidien, bon, ben, il y a eu l'arrivée de la téléconsultation, en fait, qui est pas quelque chose avec lequel moi j'avais vraiment expérimenté avant, pandémie. Mais qui maintenant fait partie, veut pas, de ma pratique, qui permet peut-être de rejoindre là, plus de personnes dans des milieux éloignés où il y a peut-être moins de services. Donc, c'est sûr que ça a amené quand même des changements. Ça amène aussi, veut pas, à ce qu'on aille à se réinventer un peu comme professionnel. Il y a énormément de besoins dans la population actuellement. On n'a pas le choix un peu d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Donc, justement, télépratique peut parfois aider à aller rejoindre des gens qui auraient besoin de nos services, mais qui malheureusement n'ont pas accès à ça. Au niveau de la clientèle, si on ne se le cachera pas, c'est sûr qu'il y a quand même eu de grands impacts. Ça a été une épreuve quand même, la pandémie, qui continue là, de mettre les capacités adaptatives de tout le monde un peu à rude épreuve. Pour plusieurs, ça va avoir apporté des difficultés qui peut-être étaient déjà présentes par le passé, mais qui là ont vraiment popé. Fait que si on parle par exemple de gestion de stress, je pense que ça a été un contexte en fait là, qui a amené beaucoup de stress pour beaucoup de personnes. Mais j'ai l'impression en tant que telle, et ça c'est une opinion personnelle, mais j'ai l'impression que le stigma lié à l'idée de consulter a peut-être un peu tombé au sein de la population. Ça devient beaucoup plus normal d'aller chercher de l'aide. Il y a plus vraiment de jugement lié à cet effet-là. Les gens recherchent plus d'aide, les gens sont ouverts à en parler, les gens sont ouverts à se soutenir entre eux aussi, à l'idée de devoir aller chercher une consultation. Fait que c'est sûr que veut pas de ce côté-là, je pense que quand on parle de capacité adaptative, ça vient beaucoup rejoindre là, des concepts qui sont très proches à la psychoéducation. Fait que c'est sûr que je pense que en tant que professionnelle, je vois que mon rôle va continuer d'être très important là, pour les gens que je côtoie là, pendant encore bon nombre d'années à la suite là, des dernières années qui ont été plus difficiles.
Ben c'est ce qui conclut notre entrevue avec toi aujourd'hui. On te remercie beaucoup pour ton temps d'avoir collaboré là, sur le projet. Donc ben merci beaucoup.
Et merci beaucoup à vous. Ça a été très agréable de pouvoir vous parler un petit peu plus là, de ma belle profession qui est la psychoéducation.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.